Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Bolivie, troisième partie. On continue à monter en altitude, mais ça se passe plutôt bien. Milton, il a un paquet de feuilles qui mâchent. En fait, il l'a devant le levier de vitesse. On lui demande ce que c'est, donc il nous explique que ce sont des feuilles de coca. Et lui, il les mâche tout au long de la journée. Et en fait, ça anesthésie un peu la bouche. Et puis forcément, ça donne, distille un côté relaxant, apaisant. Et on voit qu'il est quand même assez dépendant à cette feuille parce qu'il en mâche tout au long de la journée. Et il nous explique quand même qu'il est assez fatigué parce qu'il a des problèmes de dos et qu'il enchaîne les tours, forcément. Et d'ailleurs, nous, on a bien vu, on est reparti le lendemain d'un de ses retours d'expédition. Mais il fait énormément de kilomètres et de voitures tout au long de la semaine. Et il enchaîne à peu près 4 ou 5 expéditions avant de s'arrêter une semaine, se faire une semaine de repos. Donc voilà, on est quand même concentré sur lui, à lui demander si ça va bien, sur les journées qui sont très longues. Et quand il fait nuit, être sûr qu'il s'endorme pas au volant, quoi. Il nous propose de goûter la coca. Donc le principe, c'est de mâcher la feuille, mais il ne faut surtout pas avaler de la feuille. Il faut la caler dans un fond de sa bouche. Et la mâcher avec les dents de derrière. Et puis au bout d'un moment, on recrache tout ça. Donc on essaye, Swan et June aussi. Violette, non. Mais en fait, bon, ça n'a pas un goût extraordinaire. Et puis nous, on ne sent pas tellement les effets. Daniel, il n'aime pas. Donc on a essayé, mais ce n'était pas très bon. Pendant cette journée, on voit des choses dingues. En tout cas, pour la première fois, on va dans une maison, une ferme qui élève des lamas. Et là, on peut rentrer dans l'enclos. La dame, elle nous laisse rentrer et on s'approche de tous ces lamas. C'est vraiment trop mignon. Il y a des bébés. Ce sont des animaux qui sont attendrissants. Par contre, on a un petit peu peur qu'ils nous crachent dessus, selon la légende. Et d'ailleurs, on en voit 2-3 cracher. Donc, on s'approche pas trop quand même. Mais Daniel, il arrive à prendre des selfies avec les bêtes. C'est assez marrant. On fait un autre arrêt à côté d'un lac qui est à moitié gelé. Et là, il y a des flamants roses. Enfin, ils ne sont pas roses, ils sont blancs. Mais c'est super beau. Et les enfants sont avec les groupes de jeunes de l'autre voiture. Il y a des petites flaques de glace le long du lac. Et elles s'amusent à courir et à faire des glissades comme les autres jeunes de l'autre voiture. Et là, moi, je commence un peu à stresser parce que je me dis, s'il y en a une qui tombe, qui se réceptionne mal et qui se casse un poignet ou quelque chose, bah là, on est mal barré, quoi. Mais en fait, elle s'éclate tellement que je me dis, bon, allez, aie confiance en elle, aie confiance dans le fait que tout va bien se passer. Et effectivement, ça se passe bien. Après, on se rend dans un espèce de endroit désertique qui s'appelle le désert de Dali. Et on comprend assez vite parce que c'est un paysage de collines rouges avec des lignes ocre qui ressemble beaucoup au paysage qu'on retrouve dans certaines peintures de Dali. Et puis on fait un stop à un autre endroit et on sent que là, Milton, il n'arrête pas de réadapter le programme de la journée, parce qu'on devait aller à des sources chaudes, et puis finalement il dit non, on va y aller plus tard, et puis plus tôt, puis on finit par arriver à 11h près d'un lac qui s'appelle la Laguna Verde, qui est un lac qui grille quand on arrive en tout cas. Et il se trouve au pied d'un volcan, le Licancabur, qui fait la frontière avec le Chili. Ce volcan, il est au Chili et il est d'une altitude quasi de 6000 mètres.
Bon, déjà, rien que le lieu est extraordinairement beau. Et il nous dit, regardez ce qui va se passer. Dans 10 minutes, il va se passer quelque chose de très spécial. Et en fait, ça arrive moins de 10 minutes après. Il y a un petit vent qui se lève. Donc, on comprend après que c'est un thermique. Il est 11h15. Et là, au fur et à mesure, l'eau du lac qui était grise devient bleu turquoise et de manière déroulante, quoi. Comme s'il y avait une onde qui déroulait. Et en l'espace de 4 minutes, tout le lac devient bleu turquoise. Et là, il est trop fier qu'on ait pu assister à ça. Nous, on le filme, c'est extra. Et on se rend compte que c'est, voilà, qu'on a de la chance d'avoir ce guide qui nous a amenés au bon moment pour voir ce phénomène qui se produit tous les jours à la même heure. On s'arrête au retour aux eaux thermales pour déjeuner. Et avant ça, on se fait un bon bain d'eau chaude. Les eaux thermales sont en extérieur à 38 degrés au milieu d'une nature incroyable. Ce sont des bains naturels et on a beaucoup de mal à se mettre en maillot de bain parce qu'il fait très froid dehors. Mais alors une fois qu'on est dedans, c'est un régal. Et surtout, on se dit que c'est une des rares options de pouvoir se laver pendant ce séjour. Donc on en profite grandement. Les eaux thermales, elles émanent d'une activité volcanique qu'il y a dans le secteur. Donc ça, c'est la prochaine étape où on nous emmène voir des marmites bouillonnantes et des geysers de boue et d'eau qui émanent de cette activité volcanique. C'est hyper impressionnant, on ne reste pas trop longtemps parce que ça gicle pas mal et ça sent très fort le soufre, donc c'est assez incommodant. Mais c'est fou aussi de voir ces phénomènes d'aussi près. La dernière étape de cette journée se fait autour d'un lac qui est rouge et qui est habité par des colonies de flamants roses. En fait, c'est une algue rouge dans le fond du lac et c'est cette algue que mangent les flamants et qui les rend roses. Et là, moi, je commence à me sentir presque pas bien. Non pas que je me sente mal physiquement, mais je prends la conscience que j'ai vu tellement de belles choses ces deux derniers jours, une nature si extraordinairement sublime, que les émotions, elles montent, et c'est toujours une émotion plus forte. Et là, je me dis, bon, il y a un moment, il faut que ça cesse, on ne peut pas être dans un monde où tous les jours, on voit des choses toujours de plus en plus belles. J'ai un peu le sentiment de perdre pied avec la réalité, tout en étant complètement dans le moment présent, de la beauté, de la nature et du paysage qui m'entoure. Et c'est quelque chose que ressent aussi Daniel. On se sent extrêmement chanceux et on a pleinement conscience d'être dans un endroit qui est extraordinaire et de vivre une expérience qui est extraordinaire. Heureusement, le soir, quand on arrive à l'hôtel, on revient un petit peu à la réalité. La réalité, qu'il fait froid. Et qu'on n'a qu'une chose, c'est que le lendemain matin arrive, qu'on ait bien dormi, enfin, qu'on ait réussi un peu à dormir, et que le soleil se lève pour que les rayons du soleil nous réchauffent à nouveau. Au petit-déj, on est super couvert, on mange avec les gants et les bonnets. C'est pour dire à quel point il fait froid. Daniel, il commence à s'agacer fortement de ce grand froid. Heureusement que ce qu'on vit est génial, parce qu'il a du mal à supporter physiquement. Et puis le troisième jour a aussi son lot de surprises, même si on fait énormément de route. On va d'abord dans un site géologique avec beaucoup de grosses pierres et rochers qui ont des formes particulières, comme la coupe du monde ou une tête de lama. Et là, on peut monter, redescendre, c'est assez ludique. Donc les enfants, elles suivent, elles adorent. Et nous, ça nous fait du bien quand même, au milieu de ces longs trajets de voiture, de pouvoir sortir et de faire des marches. On se retrouve aussi dans un autre endroit, qui s'appelle la Lagune Noire. Il y a plutôt des marécages et c'est beau parce qu'il y a de l'eau qui s'écoule avec de la glace, sous la glace, parce qu'il y a des plaques de glace, des plaques d'eau gelée dans ces marécages. Et il y a un petit sentier, il y a de la mousse verte partout. Moi, je trouve que ça ressemble à un paysage un peu islandais ou de contes de fées où il y aurait des gnomes cachés de ça, de là. Et c'est super de pouvoir déambuler dans ces endroits avec des oiseaux noirs qui sont là. Enfin, on change de paysage sans cesse et chaque paysage est à la fois aussi différent que surprenant. C'est un jour un peu spécial parce qu'on sait qu'on s'est rapproché du désert de sel et que ce soir on va aller voir le coucher de soleil dans le Salar. Et ça nous intrigue, quoi. Et en même temps, on se dit, on a vu déjà tellement de choses magnifiques. Est-ce que ça va nous plaire, le Salar? Est-ce que ça va nous surprendre? Est-ce qu'on va pas s'habituer à cette beauté? Donc on arrive à notre dernier hôtel, qui est un hôtel qui est fait tout en sel. Les murs sont en sel, les lits qui sont des blocs de sel sont complètement faits en sel. Par terre, il y a du sel. C'est assez chouette, on est tous dans la même chambre, elle est toute jolie, bon, toujours aussi fraîche que partout où on est allé. Et puis, on pose nos sacs et puis on repart direct dans le Salar pour voir le coucher de soleil.
Alors là, on est dans une chambre, par terre, c'est du sel. En fait, tout est made of salt. Bed, walls, the floor. And outside, we have a beautiful view with llamas.
What?
And we are going in the Salar.
Oui,
on va dans le Salar.
Et là, c'est vrai que quand on rentre dans le Salar, c'est-à-dire qu'à un moment, on sort de la route et on tourne pour aller prendre la piste, quoi, sur le désert de sel. Bah, c'est l'éblouissement. C'est une immensité blanche. On dirait que c'est de la neige, mais on sait que c'est pas de la neige. Et ça, sur des kilomètres. Et c'est... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, on a la jeune Sigrid qui fait la gueule parce qu'on est parti en décalé avec la voiture et les autres copains. Et que je crois qu'ils avaient prévu un apéro, qu'elle peut pas les rejoindre parce qu'on sait pas où ils sont. Donc elle s'agace, et puis Milton il s'agace aussi, mais il le dit pas trop. Bon, nous on s'en fiche, on est tous les cinq dans la voiture, et l'endroit est magique. Et on s'arrête comme ça, au milieu du désert, alors comme d'autres 4x4 d'expédition qu'on voit beaucoup plus loin. Et on admire ce coucher de soleil, on prend quelques photos rigolotes, mais c'est... Ouais, c'est envahissant d'émotions, c'est plus grand que tout. C'est vraiment une expérience physique de vivre cette intensité. Les filles trouvent ça incroyable. Alors, elles ont l'impression que c'est comme de la neige, donc elles font comme si elles jouaient dans la neige, mais c'est plus dur que de la neige. Et elles profitent bien, et puis quand même, au bout d'un moment, on commence à avoir très très froid. On sent le froid qui tombe avec la nuit qui tombe. Et quand on rentre, on est quand même très contente de pouvoir boire une bonne boisson chaude et puis se mettre à table. Milton, il vient nous voir un peu discrètement parce qu'il est désolé qu'il y ait cette ambiance un peu compliquée dans la voiture. Et en même temps, c'est pas ce qu'il nous avait promis. Enfin, il s'était pas engagé là-dessus, en tout cas au début. Et donc, il nous dit discrètement que si ça nous dit, Daniel et moi, il nous emmène... voir le ciel étoilé du Salar une fois que la nuit sera tombée et qu'on aura dîné. Il nous propose d'emmener tout le monde, bien sûr, pas Sigrid, hein, mais que notre famille. Et nous, on décide de laisser les enfants dormir parce que de toute façon, elles sont très fatiguées, elles ont froid et elles n'auront pas envie de ressortir. Puis c'est l'occasion pour tous les deux de vivre encore quelque chose de spécial. Donc discrètement, après dîner, il nous donne rendez-vous 10 minutes plus tard à l'extérieur, juste le temps pour nous de coucher les enfants. On repart en voiture avec lui, on roule 20 minutes, et puis il arrête le moteur au milieu de nulle part, sur cette plaque de sel. On est tout seul là, pour le coup, il n'y a aucun autre véhicule de touristes. Et puis on observe ce ciel étoilé qui est dingue. C'est encore une émotion... très vive et on est là tous les deux, quoi. C'est un moment vraiment particulier. Alors c'est la pleine lune, donc nous on s'est dit c'est incroyable d'être là dehors à la pleine lune, en plein Salar, ça va être incroyable. Et Milton il est un petit peu déçu parce qu'il nous dit bah, quand il y a la pleine lune on voit moins la Voie lactée, Donc c'est vrai que quand c'est nuit noire, c'est encore plus joli. Mais nous, là, c'est au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. On est dans un pays féerique, quoi. On rentre se coucher, ébloui par ce que l'on vient de voir, mais aussi pour prendre quelques forces parce que le lendemain, on a rendez-vous à 4h30 du matin pour aller voir le lever de soleil sur le Salar. Bon, le réveil n'est pas facile parce que c'est vrai qu'il faut qu'on replie toutes nos affaires, qu'on replie les sacs de couchage, qu'on sorte les enfants de leur lit, qu'on les équipe, tout ça dans un grand froid, on va dire en milieu de nuit ou en dernière partie de nuit. Et ça nous demande quand même pas mal d'énergie. Mais on arrive à mettre tout le monde dans le 4x4 à l'heure de rendez-vous et c'est parti pour à peu près 3 quarts d'heure de voiture avant de commencer une randonnée dans ce qu'on appelle l'île au cactus, qui est un endroit magnifique. C'est une île en plein milieu du désert avec de la roche. C'est un petit peu en surplomb du Salar. Elle est entourée de cactus qui sont très longs, très piquants. Et ouais, c'est comme un paysage assez lunaire. On n'a pas pris le petit déjeuner parce que le petit déjeuner, il se prendra après le lever de soleil. Donc on laisse Violette et June dans la voiture parce qu'elles ont trop froid, elles ne veulent pas marcher, elles ne veulent pas rester dehors. On les emmitoufle sous les duvets parce que la voiture, elle est à l'arrêt. Milton, il reste, il vient pas de toute façon, il va rester auprès d'elle. Et d'ailleurs, il démarra la voiture régulièrement pour mettre un peu le chauffage. Et nous, on part avec Swan pour faire cette ascension et aller observer ce lever de soleil. Alors, l'attente, elle est longue là-haut. Il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de touristes. En fait, tous les 4x4 qui étaient en expédition en même temps que nous sont là. Et on a tous très froid. Il fait très, très froid et on attend à peu près 1 heure que le soleil se lève. Alors, on discute, on papote avec d'autres personnes que l'on rencontre. On a notamment sympathisé avec un couple d'hommes qui sont à la retraite et qui voyagent en camping-car depuis 5-6 ans. Ce sont des Français. Et en gros, ils voyagent dans leur camping-car et puis ils rentrent en France 2 ou 3 mois par an. Ils sont super sympas, donc on discute pas mal. Mais c'est vrai que quand le soleil se lève, on se dit une fois de plus que ça valait vraiment la chandelle. C'est encore incroyable, ces couleurs qui passent du nuit noir au bleu foncé, mauve, et ensuite ça tourne vers les orangés, jaunes, avec des nuances rouges. Bon, c'est fou. Et là, sur cette île, ben, il y a 2 chats qui sont là et qui font des câlins à certaines personnes. C'est... Ouais, on est dans un film, en fait. On n'a pas l'impression d'être dans la réalité.
How are you today?
It's cold, freezing cold.
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 Yeah,
freezing,
really cold.
Freezing.
Quand on descend, les filles se réveillent. Elles ont vraiment bien fait de pas nous accompagner. Nous, on a les pieds et les mains, mais complètement gelés. Et là, quand on se dit qu'il faut qu'on prenne un petit déj en extérieur, parce qu'ils dressent une petite table en extérieur, Milton. Oh là là, c'est. Wow, on se dit qu'on commence à avoir hâte de retrouver la chaleur d'un foyer. Entre-temps, bah, Sigrid, elle s'est complètement embrouillée avec Milton. Je ne me souviens plus pourquoi. Plus la veille au soir, elle a souffert du mal de l'altitude, donc elle a été malade, elle a vomi. Enfin bref, Milton, il n'est pas content, mais bon, je crois qu'il a décidé de finir le séjour en ignorant Sigrid, ce qu'on fait aussi, on ignore en tout cas leurs embrouilles et puis on commence tous à être un petit peu fatigués. Hein. On a fait énormément de kilomètres, beaucoup de voitures, on a souffert du froid. Donc là, on se dit qu'il est temps de rentrer. On fait quand même une séance photo de malades en plein salar. Donc Sigrid, elle est avec le groupe de jeunes. Nous, on est en famille. Et Milton, il est génial. Il a vachement l'habitude. Parce que c'est vrai que dans le salar, il y a une perspective qui est énorme. Donc il a amené un petit dinosaure en jouet qui pose par terre et nous fait nous poser très loin derrière. Et avec la perspective, on dirait qu'on chevauche le dinosaure. Enfin, il nous fait faire plein de photos et de vidéos assez artistiques, marrantes. Et ouais, ça nous éclate. C'est vraiment un épisode sympa aussi du séjour. On finit notre périple à Uyuni, qui est une ville assez grande en plein milieu d'un espèce de désert. Les rues sont bitumées puis elles se finissent dans la poussière. C'est une ville qui est pas très agréable, assez sale. Mais bon, on savait qu'on arrivait là et on a réservé un hôtel assez cher par rapport à la plupart des hôtels. Et on l'a choisi parce qu'il y a du chauffage et il y a du chauffage au sol dans la chambre et de l'eau chaude. Et là, clairement, eh ben, on va s'enfermer quasiment un jour et demi dans cette chambre pour profiter du chaud, profiter de la douche chaude. Voilà, se requinquer après ces 4 jours d'aventure dans le grand froid. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu ? Venez écouter l'épisode 30 sur la 4e partie de notre voyage en Bolivie. À bientôt !